C'est l'histoire d'un jeune inspecteur des finances politiquement ambitieux, d'une puissante banque d'affaires ayant fait sa fortune avant son entrée en politique, et d'un État peu regardant sur le patrimoine de son président. Au point, peut-être, d'ignorer l'un des plus gros scandales du quinquennat. L'événement déclencheur de l'histoire que nous allons vous raconter remonte peut-être au 27 septembre 2017. Ce jour-là, en Conseil des ministres, Emmanuel Macron annonce la suppression de l'impôt sur la fortune. Un an plus tard, il alourdit les taxes sur le diesel. Pour la France d'en bas, il devient le président des riches. C'est le début de la plus grande révolte sociale que la France ait connue depuis mai 68. Pour justifier la suppression de l'ISF, Emmanuel Macron a toujours dit vouloir favoriser l'investissement.
L'ISF a un effet pervers lorsqu'il s'agit de taxer celles et ceux qui peuvent réinvestir dans l'économie et donc être utile au financement de votre économie, au financement de l'innovation et quelque part à votre souveraineté.
Mais derrière ces grandes tirades, Emmanuel Macron avait peut-être aussi un problème personnel avec l'impôt sur la fortune. Au fil des années, il était devenu son cauchemar. Voici pourquoi. L'histoire d'Emmanuel Macron avec l'ISF commence en 2007. Cette année-là, le président Sarkozy charge Jacques Attali, ancien conseiller de François Mitterrand, d'installer dans les ors du Palais du Luxembourg une commission de grands patrons et d'économistes chargés de relancer la croissance. Parmi les membres de cette commission, Serge Weinberg, qui deviendra patron de Sanofi, Peter Brabeck, patron du géant suisse Nestlé, l'avocat d'affaires Jean-Michel Darroy, ou Xavier Fontanet, directeur général d'Essilor. Mais aussi un jeune inspecteur des finances qui va tout faire pour séduire ces barons du capitalisme mondial, Emmanuel Macron. Décryptage du journaliste Marc Endevelde.
Emmanuel Macron, au départ, est simple rapporteur. C'est lui qui est chargé d'écrire le premier rapport de la commission Attali. Ensuite, il est tellement aimé par les membres de la commission Attali qu'il devient membre à plein titre lors de la deuxième commission Attali. Et donc, Emmanuel Macron, là, il s'adresse à qui ? À l'entre-soi d'une partie du capitalisme français, qui ont d'ailleurs, pour la plupart des grands patrons, du patrimoine accumulé depuis quelques années, de par leur grand salaire à la tête des entreprises. Et donc, ils ont un intérêt direct à supprimer tout ou partie de l'ISF. Et donc, il va s'adresser, comme d'habitude avec Emmanuel Macron, il va être démagogue, comme c'est la définition de la démagogie, mais il va en tout cas aller dans le sens de son auditoire. En l'occurrence, à l'époque, il faut séduire les membres de la commission Attali, il en a un intérêt direct, et donc il propose la suppression de l'ISF à l'époque. Il était prêt, sur le plan de la fiscalité, à dégommer le symbole de l'ISF, et donc de l'impôt sur la fortune, au sein même de la commission Attali. Ça fait partie des éléments de l'ambigu M. Macron, qui se fait passer, quand il est secrétaire général adjoint de l'Élysée, pour quelqu'un plus de gauche que certains responsables socialistes, enfin en tout cas c'est les responsables socialistes qui me le disent à l'époque, et de l'autre côté j'apprends qu'à la commission Attali, il a été dans un sens entre guillemets dit ultralibéral en proposant la suppression de l'ISF.
Sauf que supprimer l'impôt sur la fortune à l'époque, même Nicolas Sarkozy n'ose pas le faire.
Il faut se replacer dans le contexte. À l'époque, ce n'est pas du tout les arbitrages de Nicolas Sarkozy, du Château et de l'Élysée. Ils ne souhaitent pas aller sur le terrain de la suppression de l'ISF.
Et du coup, Jacques Attali non plus.
J'ai tenu à ce qu'on maintienne l'ISF.
Pourquoi ?
Parce que pour moi, c'est un impôt. Je n'ai jamais cessé d'être de gauche, même si j'ai présidé une commission transpartisante, mais pour moi, c'est un impôt à la fois symbolique et essentiel. Je pensais que ça aurait été un signal très mauvais à donner en termes de justice sociale que de le supprimer.
Et donc, Attali, qui est donc garant, on va dire, de la crédibilité et également de l'acceptation politique de la commission Attali au regard de son principal commanditaire, qui est Nicolas Sarkozy, le président de la République, Jacques Attali va expliquer aux membres de la commission Attali et à Emmanuel Macron lui-même que cette proposition ne peut pas être inscrite dans le rapport de la commission Attali.
Après cette première tentative ratée, Emmanuel Macron va faire circuler son CV au sein de la commission. De bonnes fées comme Serge Weinberg ou l'avocat d'affaires Jean-Michel Darrois vont alors le recommander auprès de David de Rothschild, le patron de la plus puissante banque d'affaires franco-britannique. Présent dans 43 pays avec un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros en 2019, Rothschild & Co est leader européen dans les fusions-acquisitions.
The Rothschild name is associated with strong values of a family-controlled business.
Dans ce film institutionnel, Rothschild parle respectabilité et famille. Le patriarche, David, passera bientôt la main à son fils, Alexandre. Quand il était ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg avait été confronté aux pratiques des banques d'affaires comme Rothschild & Co. Il en a gardé un souvenir mitigé.
Banquier d'affaires, c'est celui qui fait des deals, c'est-à-dire des opérations d'acquisition, fusion ou vente d'entreprises, généralement de taille considérable, et qui reçoit une commission sur la taille de la transaction. Donc si vous vendez une affaire à 16 milliards, vous savez que vous aurez plusieurs centaines de millions à encaisser. Donc c'est un enrichissement sans cause, et surtout qui est causé par une industrie de la transaction qui s'est autonomisée. Donc le banquier d'affaires, il passe sa journée à aller chercher des mandats, c'est-à-dire vous devriez vendre, vous devriez acheter. Et donc c'est la maladie française d'avoir survalorisé cette profession, qui est peuplée des narques, des froqués, et qui veulent gagner beaucoup d'argent, beaucoup plus que leurs semblables, qui a fait que la France, finalement, a passé sa vie à tout vendre.
C'est donc cette banque d'affaires, spécialiste en fusion-acquisition, qu'Emmanuel Macron intègre en 2008. Et quand il commence à conseiller François Hollande pour son programme économique en 2010, David de Rothschild se frotte les mains.
Le fait qu'un banquier de chez Rothschild, un jeune banquier de chez Rothschild, se rapproche politiquement d'un candidat à l'élection présidentielle entre 2010 et 2012, en l'occurrence François Hollande, du Parti socialiste, du côté des responsables de la banque Rothschild, on regardait ça d'un bon œil, parce que c'était une manière pour la banque de se dire « Ah bah si François Hollande est élu, on aura, entre guillemets, une courroie de transmission, on aura en tout cas au moins quelqu'un à qui parler, pour nous permettre de faire passer des messages auprès du plus haut personnage de l'État, en l'occurrence le président François Hollande. »
Fin 2010, David de Rothschild coopte Emmanuel Macron dans le sein des saints, le cercle très privilégié des 20 associés gérants de sa banque. En 3 ans, le jeune inspecteur des finances va faire fortune grâce à Rothschild. En mai 2012, quand François Hollande le nomme secrétaire général adjoint de l'Élysée...
C'est la France 2020, tu vois. Quel est mon agenda au-delà de ça?
Les Macron sont donc aisés, d'autant qu'ils ont des biens immobiliers. Au Touquet, Brigitte possède une jolie maison qui sera estimée en 2015 à 1 453 000 euros. Emmanuel, lui, est propriétaire d'un bel appartement avec terrasse dans le 15e arrondissement parisien, acheté 890 000 euros en 2007. Malgré ce beau patrimoine, entre 2008 et 2015, les Macron vont réussir à ne jamais payer l'impôt sur la fortune. Voici comment. À l'été 2014, quand il remplace Arnaud Montebourg à Bercy, Emmanuel Macron se voit contraint de fournir une déclaration de patrimoine. Depuis l'affaire Cahuzac, ce ministre du budget de François Hollande qui avait caché de l'argent dans un compte non déclaré en Suisse, puis à Singapour, tous les ministres doivent en effet dévoiler ce qu'ils possèdent. Le 24 octobre 2014, Emmanuel Macron réfléchit donc à sa déclaration de patrimoine. Brigitte, on l'a vu, possède une belle maison au Touquet qui sera estimée à 1 453 000 euros. Côté Emmanuel, on trouve des liquidités pour 269 000 euros, une voiture à 6 000 euros et l'appartement parisien, acheté 890 000 euros en 2007. Dans le 15e arrondissement où il se trouve, les prix ont augmenté depuis l'achat d'environ 33%. Et comme il y a fait 70 000 euros de travaux, on peut estimer sa valeur en 2014 à 1 276 000 euros. Soit un actif total de 1 551 000. À son passif, Emmanuel a des dettes, 1 054 000 euros. Ce qui donnerait un patrimoine net pour lui de 497 000 euros. Avec la maison de Brigitte, le patrimoine net du couple Macron pourrait donc être estimé à 1 951 000 euros. Comme pour l'ISF, la valeur de la résidence principale, l'appartement parisien, est abattue de 30%, le patrimoine taxable des Macron atteindrait, selon ses calculs, 1 568 000 euros. Il devrait donc payer l'ISF. Mais dans leur déclaration, les Macron vont estimer que leurs biens valent moins cher. La maison de Brigitte, il l'évalue à 1,2 million d'euros seulement. L'appartement du 15e, Emmanuel oublie les 33% d'augmentation du quartier et l'évalue à 935 000 euros, même pas le prix d'achat plus les travaux. Résultat, le patrimoine taxable des Macron ressort désormais à seulement 1 076 000 euros, juste en dessous des 1,3 million du seuil de l'ISF. Pour cet inspecteur des finances publiques, minimiser son patrimoine est une ruse classique pour échapper à l'impôt sur la fortune.
Le contournement le plus classique, c'est de déclarer un patrimoine immobilier plus faible que sa valeur, sa vraie valeur. Et là-dessus, on a vraiment, bon, sur les biens situés par exemple à Paris, c'est typique. Vous allez, faut réfléchir à la place du contribuable. Il va dire, mais moi, je l'ai acheté 500 000 euros. Bah, il vaut 500 000 euros. Il n'en vaut pas 1 million ou 1,5 million, vous voyez. Donc ça, c'est très, très classique. L'autre moyen, ça peut être d'augmenter votre passif, vos dettes. Comme ça, bah, votre actif net, il sera inférieur. Comment faire pour ça? Par exemple, si vous avez assez de liquidités pour acheter un bien cash, bah, au lieu de l'acheter cash, vous faites un prêt. En faisant un prêt, vous réduisez votre actif net. Et donc finalement, vous pouvez échapper à une bonne partie de la taxation à l'ISF.
L'actualité ce mercredi marquée par une nouvelle...
Sous-évaluer ses biens pour échapper à l'ISF, François Hollande et Ségolène Royal l'avaient déjà fait en 2007. Souvenez-vous.
Affirme le Canard enchaîné, selon l'hebdomadaire satirique, le montant total de leurs biens se montrait à 1,8 million d'euros. Le couple aurait donc dû payer plus de 6 000 euros au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, 7 fois plus que ce qu'il a effectivement déboursé. Véronique Fèvre.
120 mètres carrés sur les hauteurs de Cannes avec jardin, piscine et vue sur la mer, la maison de Mougins vaudrait selon Ségolène Royal 270 000 euros. Une somme qui ne suffirait même pas à acheter le terrain nu selon les experts immobiliers rencontrés par le Canard enchaîné. Deux maisons voisines sont d'ailleurs à vendre, prix affiché au moins 1 million d'euros. Pour les professionnels, la maison du couple est clairement sous-évaluée, elle vaudrait 850 000 euros minimum. Une accusation balayée par la candidate PS.
Ils ne sont même pas venus la visiter, donc ils parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. C'est une maison de famille qui a été achetée en 1986, il y a plus de 20 ans. Peut-être vaut-elle plus que ce qu'elle a été estimée par l'expert comptable, mais ça c'est aux services fiscaux de le décider.
En plus de la maison, l'appartement de Boulogne aurait également été sous-estimé. Selon le Canard, au final, Ségolène Royal aurait pulvérisé les records de sous-évaluation immobilière. Avec un tel patrimoine, elle aurait dû payer plus de 6 000 euros au titre de l'ISF. C'est 7 fois plus que ce que le couple Hollande-Royal a versé.
Sauf que sous-évaluer ses biens, c'est rarement sanctionné.
C'est pas illégal de sous-déclarer, au sens où, si vous passez entre les mailles du filet, eh ben, tant mieux pour vous, tant pis pour le fisc, mais on considère que vous avez déclaré. Ensuite, le contribuable, on l'interroge, il va dire « j'ai oublié ». C'est tout ce qu'il va dire. Il va dire « j'ai oublié ».
Ce que Macron aurait pu dire, j'ai oublié réévaluer mon logement.
Tout à fait.
En 2015, conscient de cette mansuétude de Bercy, Emmanuel Macron va se montrer très sûr de lui. Sur les plateaux télé, le nouveau ministre de l'économie martèle un peu nerveusement à qui veut bien l'entendre qu'il ne serait ni riche, ni concerné par l'impôt sur la fortune.
Je ne me considère pas comme riche. J'ai d'ailleurs, comme tous mes collègues, fait à la fois
une déclaration de patrimoine.
Et d'intérêt. Ouais. Et vous avez pu constater que je n'étais pas à l'impôt sur la fortune et que je n'étais pas multimillionnaire.
Mais quelques mois plus tard, Emmanuel Macron va bizarrement relancer la guerre qu'il mène depuis 2007 contre l'impôt sur la fortune.
À l'heure de la sortie du Conseil des ministres, la polémique du jour a déjà éclaté. La raison, une déclaration du ministre de l'économie dans la presse autour de la suppression de l'impôt sur la fortune.
Si on a une préférence pour le risque face à la rente, ce qui est mon cas, il faut préférer la taxation sur la succession aux impôts de type ISF.
Dans la foulée, le recadrage du Premier ministre ne se fait pas attendre.
Supprimer cet impôt, supprimer l'impôt sur la fortune, qu'on peut toujours améliorer, rendre plus efficace d'un point de vue économique, serait une faute. Que chacun soit concentré sur sa tâche dans la cohérence et dans la loyauté.
Plus tard encore, le ministre de l'économie calme le jeu et rectifie sa pensée sur l'ISF.
Je n'ai pas dit qu'il fallait supprimer l'ISF. J'ai dit que la taxation du capital dans notre pays n'était pas optimale.
Si Manuel Valls se montre agacé, les collègues de Macron à Bercy, Michel Sapin et Christian Eckert, sont pour leur part exaspérés. Dans ce contexte tendu, une information cruciale va tomber dans le bec d'un journaliste du Canard enchaîné. En juin 2016, l'hebdo satirique révèle que le fisc a taillé un costard à Macron. Emmanuel Macron a laissé dire et écrire qu'il n'était pas assujetti à l'ISF. Hélas, ce n'est pas tout à fait l'avis de l'administration fiscale. Macron a dû refaire ses différentes déclarations prévues par la loi et accepter, sans broncher et sans faire de bruit, de payer 3 ans d'ISF. En vérifiant les déclarations du couple Macron, le fisc a en effet estimé que la maison de Brigitte avait été sous-évaluée. Elle ne vaudrait pas 1,2 million d'euros, mais 1,453 000 euros. Du coup, le patrimoine des Macron ne serait pas de 1 076 000 euros, mais de 1 329 000. Et ils auraient dû payer l'ISF.
Moi, je m'intéresse à ça 3 mois ou 4 mois après que le redressement lui ait été infligé. Et alors lui, ce qu'il dit, c'est pas un redressement, c'est un éclaircissement avec l'administration fiscale, voilà. Donc j'ai pas été redressé, ma situation n'était pas claire, on a éclairci ma situation. Voilà. Il avait été très prolixe de renseignements, c'est-à-dire une attitude très amicale, très ouverte. Il m'avait fourni d'amples renseignements, tout ça était assez bien construit, mais quelle que soit la beauté de son raisonnement, en fait, c'était là, c'est qu'il avait été redressé. Voilà, il pouvait dire ce qu'il voulait, il avait été redressé.
Avec l'avocat d'Emmanuel Macron, les rapports vont être tout aussi courtois.
Il savait très bien que j'avais raison. Mais lui, il était là pour son client. Il ne va pas me dire... Ce n'est pas une discussion entre gens de bonne foi. Hein, c'est une discussion où chacun défend ses intérêts avec les arguments qu'il peut. Si, pour défendre l'innocence de Macron, il avait dû invoquer et me dire « la terre est plate », il m'aurait dit « la terre est plate », si vous voulez. Et j'aurais dit « non, elle n'est pas plate ». Il m'aurait dit « bon, bah, écoutez, chacun son opinion ». Et puis voilà, on en serait resté là.
Dans cette affaire, après avoir sous-évalué la maison de Brigitte de 253 000 euros, le couple Macron a dû payer 4 174 euros d'ISF pour 2013 et 2 264 pour 2014. Mais pour notre confrère du Canard enchaîné, ce n'est pas pour ces quelques milliers d'euros que les Macron avaient sous-estimé leurs biens.
En fait, ce n'est pas pour ne pas payer l'ISF, parce que ce n'est pas ça le problème. L'ISF, c'est peu de choses pour lui, c'est 6 000 euros. C'est assez peu de choses, c'est négligeable, si vous voulez, 6 000 euros. Simplement, il faut voir le parcours de Macron. C'est symbolique, l'ISF, pour lui. Pourquoi ? Parce que Macron, n'oubliez pas, on a bien oublié ça aujourd'hui, on est dans un contexte de gauche. Beaucoup de gens le regardent de travers parce que c'est quelqu'un qui, personnellement, politiquement, est un néolibéral. C'est un ancien banquier d'affaires. Et pas n'importe lequel, Rothschild. Vous vous rendez compte, le symbole pour la gauche, Rothschild. Donc il ne fallait surtout pas qu'il apparaisse comme un libéral. Donc c'est pour ça qu'il voulait cacher, qu'il payait l'ISF. Enfin, qu'il ne voulait pas payer l'ISF. Donc il y a eu optimisation fiscale, pour employer un terme poli, il y a eu optimisation fiscale, mais la raison n'est pas économique, la raison, comme c'est le cas généralement, la raison est politique.
Suite aux révélations du canard, évidemment, tempête dans les 20 heures.
Emmanuel Macron va devoir payer l'impôt sur la fortune. Le fisc a estimé qu'il avait sous-évalué son patrimoine. Rien d'illégal. Le ministre de l'économie, lui, y voit une tentative de déstabilisation. Hélène Hugues.
Un ministre de l'économie qui ne sait pas évaluer son propre patrimoine. Selon des révélations du Canard Enchaîné et de Mediapart, Emmanuel Macron aurait sous-estimé la propriété de son épouse au Touquet de quelque 200 000 euros. 200 000 euros qui changent tout et le rendent du coup redevable de l'impôt sur la fortune, contrairement à ce qu'il disait sur France 2 il y a un peu plus d'un an. Aujourd'hui, il affirme n'avoir commis aucune irrégularité et dénonce une manipulation politique.
Je ne suis dupe de rien, sachez-le. C'est-à-dire le fait que ces derniers jours ou ces dernières semaines, il y a un emballement sur à peu près tous les sujets pour essayer de soit me déstabiliser, soit me fragiliser, soit penser sans doute salir l'action qui est la mienne, je ne suis pas naïf. Donc, bon courage à ceux qui tentent cela, bonne chance.
Quelques jours plus tard, le ministre de l'économie est tout de même contraint de faire son mea culpa sur Facebook. Des échanges ont eu lieu avec l'administration fiscale au sujet de l'évaluation de la maison de mon épouse au Touquet. Après discussion, l'administration a arrêté sa valeur à 1 453 000 euros. Le 18 septembre 2015, j'ai donc procédé à un règlement d'ISF pour les années 2013 et 2014, respectivement 4 174 et 2 264 euros. L'affaire aurait pu en rester là. Mais fin 2016, Emmanuel Macron se lance dans la présidentielle. Il a un projet.
Moi, je le porterai dans la durée. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner, parce que c'est notre projet.
Mais en se remettant sous le feu des projecteurs, Emmanuel Macron va à nouveau exposer la fiscalité de son couple à la curiosité de la République. Le 16 mars 2017, comme tous les candidats, Macron fournit à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de patrimoine actualisée. Son appartement du 15e a été vendu 980 000 euros, ce qui lui a permis de rembourser une bonne part de ses dettes. À l'actif de son patrimoine, il ne déclare que 609 000 euros. Et au passif, 53 000 euros d'indemnité de rupture qu'il doit à la fonction publique, et 246 000 euros qu'il doit encore au Crédit Mutuel suite à un emprunt contracté fin 2011 pour prêter de l'argent à Brigitte. À l'entendre, son patrimoine net avoisinerait donc 308 000 euros. Mais en examinant de près cette déclaration de patrimoine, cet avocat fiscaliste va y repérer une anomalie. Si Emmanuel a prêté 350 000 euros à Brigitte, voire 500 000, comme le camp Macron l'affirmait au JDD en 2017. Alors, elle lui doit cet argent. C'est une créance qu'Emmanuel aurait dû inscrire à son actif, ce qui aurait porté son patrimoine à 658 000, voire 808 000 euros. Explication de notre avocat fiscaliste.
Monsieur Macron, en fait, avait donc prêté de l'argent à son épouse où il avait dépensé dans son couple de l'argent, mais pour les travaux de la maison de son épouse. Or, dans un couple, sauf cas particulier, mais on distingue le patrimoine de chacun. Et dans un régime matrimonial, c'est-à-dire le régime sous lequel ils étaient mariés sur le plan juridique, Madame Macron possédait sa maison du Touquet, Monsieur Macron ne la possédait pas. Quand M. Macron dépense 500 000 euros pour faire des travaux dans cette maison, eh bien, en fait, c'est comme un prêt à son épouse, puisque c'est un prêt pour le bien propre, ce qu'on appelle un bien propre, c'est-à-dire le bien personnel de Madame Brigitte Macron. La conséquence, c'est que sa déclaration de patrimoine à la haute autorité aurait été, selon l'analyse, je vais arrondir pour essayer, de 300 à 500 000 euros supérieur, mais de l'ordre de trois fois supérieur à ce qu'il a déclaré.
Pour Hervé Martin, qui avait révélé le redressement des Macron en 2016, le fait de n'avoir pas mentionné cette créance de 350 à 500 000 euros sur Brigitte n'est pas anodin.
C'est une erreur comptable ou c'est...
Non, ce n'est pas une erreur, c'est un montage fiscal. C'est un montage d'optimisation. C'est clair, ce n'est pas une erreur. Surtout, si vous voulez, quelqu'un, il a quand même une tête financière, Macron. Hein. C'est un banquier d'affaires, il ne fait pas ça par hasard. C'est un montage fiscal, c'est un montage d'optimisation. Il n'y a pas divergence sur l'évaluation, ce qui peut se discuter jusqu'à la fin des temps. Là, il y a montage, c'est-à-dire introduction d'un élément qui n'a pas à être pris en compte. C'est la structure même de calcul qui est fausse. Quelle est la différence entre l'optimisation et la triche? C'est que l'optimisation est légale, et on peut présumer de la bonne foi de celui qui l'a fait, que la triche est illégale et qu'on présuppose la mauvaise foi.
Donc, et là, on est où?
Alors, si vous êtes disposé à admettre que quelqu'un qui est un financier, qui est habitué aux montages fiscaux, qui sait ce que c'est que l'ISF et comment on le calcule, si vous pouvez admettre que quelqu'un qui a une tête financière comme ça est capable de faire une erreur aussi grossière, c'est simplement une erreur. Si vous êtes dit c'est impossible, c'est une triche.
Et tricher sur son patrimoine, comme le rappelait la déclaration signée par Emmanuel Macron, c'est interdit par la loi. Ne pas déclarer, fournir une évaluation mensongère de son patrimoine ou omettre une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts est un délit puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Comment ça va ?
L'attitude du candidat d'En Marche interpelle d'autant plus qu'en ce début 2017, pour avoir employé fictivement son épouse Pénélope, François Fillon vient à lui d'être mis en examen.
De façon quasi ordonnée, Hollande, Macron, le Parti socialiste ont réclamé mon retrait et donc celui de la disparition de la droite et du centre de l'élection présidentielle.
Ce jour-là, sur le site de son think tank, Jean-Philippe Delsol titre « Macron a menti sur sa déclaration de patrimoine ». Le candidat d'En Marche ne réagissant pas, Delsol saisit la haute autorité pour la transparence de la vie publique.
Donc j'ai écrit, moi, à la Haute Autorité, le 31 mars, 3 jours après mon article, 2017, pour lui dire, ben voilà, attention, moi, je pense qu'il y a un petit problème. Hein.
Alors présidé par le magistrat Jean-Louis Nadal, la HATVP lui répond.
La Haute Autorité n'a révélé aucun élément de nature à remettre en cause le caractère exhaustif, exact et sincère de la déclaration d'Emmanuel Macron.
Du coup, Delsol saisit le procureur de la République, François Molins.
Alors moi, qu'est-ce que je fais? J'écris au procureur de la République, le 4 avril. J'écris au procureur de la République, bah écoutez, voilà la lettre que j'ai adressée à la haute autorité. Pour moi, il y a un vrai sujet. C'est peut-être un problème de droit, peut-être que j'ai tort. Mais quand même, je cite de la jurisprudence, de la doctrine, qui ne sont pas nombreuses. Mais c'est le bon sens. Ce que je vous ai expliqué me paraît clair.
Mais François Molins va répéter les éléments de langage de la haute autorité. Le collège de la haute autorité s'est prononcé par 2 délibérations dans lesquelles il a constaté qu'en l'état de ses informations, aucun élément ne permettait de remettre en cause le caractère exhaustif, exact et sincère des déclarations de M. Emmanuel Macron. J'ai donc l'honneur de vous faire connaître que je ne donne aucune suite à votre requête.
La justice vous dit ça.
La justice me dit ça.
Sans enquêter.
Sans enquêter.
Et à quelques jours de la présidentielle de 2017, Emmanuel Macron attaque Maître Delsol en diffamation.
Il m'attaque. Donc il montre à tout le monde que c'est faux puisqu'il m'attaque. Mais il sait très bien que moi je ne pourrais pas l'attaquer. s'il est élu.
À l'audience, fin 2019, le parquet propose donc de suspendre la procédure.
Et le procureur, c'est une femme, a effectivement dit, on est dans un cas très particulier qui est pour nous tout à fait nouveau. Nous ne connaissons pas de jurisprudence en la matière, mais on comprend bien que Maître Del Sol n'est pas en mesure de démontrer judiciairement qu'il a raison, puisqu'il ne peut pas aller devant un tribunal correctionnel, lui, contre M. Macron aujourd'hui. Donc, conclusion, nous allons sursoir à statuer pour que Maître Del Sol puisse, c'est ce qu'a dit la procureure, attaquer M. Macron en correctionnel avant que nous reprenions notre analyse de la chose.
Mais attaquer Emmanuel Macron en correctionnel, c'est impossible tant qu'il est président. Ce serait pourtant d'autant plus intéressant qu'en 2014, une incohérence était apparue entre ce qu'il affirmait avoir gagné chez Rothschild, près de 3 millions d'euros ici en rouge, et le modeste patrimoine qu'il déclarait alors, seulement 156 000 euros. Sa fortune se serait-elle envolée ? Ancien statisticien ayant créé un site d'information, Elucide, Olivier Berruyer s'est passionné pour le cas Macron en 2017 suite aux révélations du canard enchaîné.
Comme on est dans la campagne présidentielle, je m'intéresse au patrimoine des candidats, puisque, ouais, nouveauté, ils sont publiés, de mémoire pour la première fois. Et on a un classement assez étonnant, puisque les patrimoines partent de Nicolas Dupont-Aignan à plus de 2 millions d'euros. Mais on se rend compte qu'Emmanuel Macron affiche 200 000 euros de patrimoine net. Donc heureusement qu'il y a Poutou avec ses 31 000 euros de patrimoine, sinon Macron était plus pauvre de la présidentielle.
En 3 ans chez Rothschild, Emmanuel Macron avait pourtant multiplié transactions et gros honoraires. En novembre 2008, il aide le Crédit Mutuel à acquérir Cofidis Participation, un deal à 1,9 milliard d'euros. Et en décembre 2010, c'est Atos qui rachète la branche informatique de Siemens pour 850 millions d'euros. Fin 2010, David de Rothschild l'intègre dans le cercle très fermé des 20 meilleurs banquiers de sa banque, en le nommant associé gérant. En 3 ans, Macron aura fait fortune chez Rothschild en empochant près de 3 millions d'euros. Mais alors, pourquoi déclarer moins de 200 000 euros de patrimoine en 2014 ? C'est d'autant plus invraisemblable qu'il était justement devenu banquier d'affaires pour se constituer un patrimoine.
C'est une histoire assez amusante. J'en avais parlé avec Michel Rocard d'ailleurs, qui m'avait dit... moi, j'ai conseillé à Emmanuel vraiment d'aller dans une banque d'affaires, au moins comme ça, il prend quelques millions d'euros et après, il peut être président s'il veut se lancer en politique, au moins plus de tentations. Et puis voilà, ses arrières seront faites. Alors, ce qui était déjà, je m'étais dit, bon, ouais, ok, d'un côté, ça s'entend, de l'autre, on peut être honnête aussi. Enfin, je veux dire, je sais pas, moi, si tu m'invites chez toi, dire, planque pas l'argenterie, quoi. Tu ne seras pas obligé, je vais pas la voler, quoi. Dire, t'es pas obligé non plus, forcément, d'avoir plusieurs millions pour être honnête en étant président de la République. Mais enfin, ok, bon, pourquoi pas, ça peut s'entendre un petit peu. Mais sauf qu'il le fait, il y va, il gagne 3 millions d'euros bruts.
Chez Rothschild, avant d'être
à chez Rothschild, et quand il arrive à la présidentielle, il a plus un fifrelin. Donc, on se dit, mais enfin, c'est quoi cette histoire?
Cette question. Beaucoup de banquiers ou d'avocats d'affaires se la posent depuis des années. Comme ce fiscaliste qui a souhaité garder l'anonymat et dont nous avons donc modifié la voix et la silhouette. Pour lui, le patrimoine déclaré par Macron en 2014 est peu crédible.
Moi, je trouve que n'importe qui s'intéresse à sa déclaration de patrimoine, tu te dis, elle est stupéfiante. Logiquement, tu ne peux pas gagner autant d'argent et avoir un si petit patrimoine. C'est invraisemblable. C'est complètement invraisemblable.
Emmanuel Macron aurait-il flambé toute sa fortune en 3 ans ?
De toute façon, 1,4 million ont disparu en 3 ans. C'est facile, ça fait 1 200 euros par jour, ça fait un SMIC par jour. J'avais un peu popularisé, j'avoue, cette formule. Il a dilapidé, il a dépensé 1 200 euros, il a dépensé un SMIC par jour pendant 3 ans. Le tout, en plus, en étant à l'Élysée à ce moment-là, ce qui est quand même assez étonnant, parce que ça ne laisse pas beaucoup de temps. Et ce qui est drôle, c'est non seulement le rythme, ça en fait des courses, ça en fait des caddies hein, chez Picard là, et Franprix quand même. hein, tous les jours. C'était quoi, des 10 gros caddies. Ah, ça, c'est de bien manger. Voilà. C'était sympa, les copains, tout ça, pour la présidentielle. Mais...
En plus, quand il était à l'Elysée, c'est pas forcément lui qui payait ses courses, aussi, il était nourri.
Moi, j'en sais rien, après, ce qui se passe. C'est une moyenne, un SMIC par jour. Hein. Ça veut dire qu'il dépense aussi pas loin de 10 000 euros le week-end, peut-être. Je sais pas s'il va au combat, s'il est avec les amis, s'il fait des trucs, s'il fait des voyages, s'il fait des... Bon, aucune idée. Hein. Il fait peut-être des allers-retours à Bali chaque week-end, mais c'est pas bon pour les gaz à effet de serre, ça. Et on n'a jamais eu la réponse, et c'est assez rigolo en fait. Je répète, c'est légal, et puis il fait ce qu'il veut de son argent. Mais c'est, ce qui m'avait étonné, c'est qu'on se dit, mais enfin, c'est un comportement très étrange en fait. C'est une personnalité très étrange d'agir de cette façon-là. C'est-à-dire, le type, il a vécu comme un émir saoudien. La différence, c'est qu'au bout de 3 ans, il n'a plus un centime. En fait, alors que le saoudien, normalement, il a encore pas mal de pétrole qui est rentré d'ici là.
D'autant plus étonnant qu'en 2012, Macron confirmait à Libération qu'il s'était mis au service de Rothschild pour mettre de l'argent de côté. L'idée était aussi de me mettre à l'abri financièrement. J'ai pas de goût de luxe ni de gros besoins, mais j'accorde beaucoup de prix à mon indépendance. Selon cet ouvrage récent, il aurait fait la même confidence à l'avocat d'affaires Jean-Michel Darrois. Je veux gagner de l'argent pour être riche avant d'entrer en politique. Pour notre fiscaliste, l'hypothèse que Macron ait claqué tous ses millions ne serait pas crédible en cas de contrôle fiscal.
Alors, c'est vrai que si je devais m'emparer de ce dossier pour aller le défendre aux impôts, je dirais là, on va avoir quand même du mal à expliquer cette situation. Il va falloir que vous me donniez des explications très précises et que vous m'apportiez des éléments concrets, tangibles et circonstanciés. Moi, en fait, je ne peux pas dire à celui qui est en face de moi, « Monsieur, désolé, il a tout dépensé, ça ne tiendra pas. »
C'est-à-dire que vous, avocat fiscaliste, vous ne pourriez pas défendre ce dossier devant l'administration fiscale. C'est ça, un peu, l'idée.
Ah non, c'est indéfendable, ça. C'est totalement indéfendable.
Ça va ?
Du coup, dès la campagne 2017, la question des millions disparus de Macron s'invitait déjà sur les plateaux télé.
Il déclare un patrimoine faible, très faible, inférieur à la moyenne des Français. Et même si on ajoute les intérêts d'emprunt, peut-être même un patrimoine négatif, c'est-à-dire qu'il serait ruiné. Or, M. Macron a gagné plus de 3 millions d'euros entre 2010 et 2013 quand il était chez Rothschild. 3 millions d'euros. Donc, je ne n'accuse pas, je pose une question. Comment on explique cette disproportion entre ce qu'il a gagné et ce qui apparaît dans son patrimoine ?
Le 13 mars 2017, intrigué par le cas Macron, le président de l'association Anticor écrit à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Au regard du revenu perçu de 2009 à 2014, 3,3 millions d'euros, et du patrimoine net déclaré en 2014, 200 000 euros, l'association demandait à la HATVP de vérifier le caractère exhaustif, exact et sincère de la déclaration de patrimoine de M. Macron.
Et 10 jours après cette saisie, nous avons reçu un courrier de la HATVP qui a dit qu'elle avait contrôlé ce point qui posait question et qu'a priori, il n'y avait pas de problème.
Quelques jours plus tard, c'est le candidat lui-même qui va tenter d'éteindre l'incendie, toujours sur France 2.
Avez-vous vraiment dépensé en 3 ou 4 ans 1 million d'euros pour avoir un patrimoine aussi modeste qui vous situe juste au-dessus de Nathalie Arthaud parmi les candidats?
Alors d'abord, je vous remercie de la précision avec laquelle vous retranscrivez tout ça, parce que parfois on peut tout confondre, il y en a beaucoup qui cherchent à tout confondre. Cette campagne présidentielle, elle a été polluée par les affaires. Il y a 2 candidats qui ont des affaires, les autres n'en ont pas. Non mais, c'est important de le rappeler.
Je ne fais aucun amalgame.
Deuxième chose, j'ai bien gagné ma vie quand j'ai travaillé dans le secteur privé. Très bien gagné ma vie. Et d'ailleurs, c'est très bien d'avoir un métier dans le secteur privé. J'ai payé beaucoup d'impôts. Et c'est très bien ainsi.
Je les ai inclus dans le calcul.
Et je ne suis pas quelqu'un qui aime l'argent, sinon d'ailleurs je n'aurais pas quitté le secteur privé. Bon.
C'est pas la question.
Non, mais je vous le dis les choses parce que moi j'ai le droit de le remettre dans le contexte, c'est encore mon droit. C'est pas la question, mais c'est ma réponse. Et ça va être ma réponse jusqu'au bout. Troisième chose, malheureusement vous ne prenez pas en compte dans votre calcul le fait que j'ai fait aussi des travaux dans ce qui était la maison que j'ai, ce qui a été d'ailleurs pris en compte et ce qui a été transcrit à la Haute Autorité. Elle en a eu à connaître, simplement elle ne le rend pas public.
Les travaux font augmenter la valeur d'un patrimoine.
Et c'est bien pour ça que ce patrimoine a augmenté dans sa valeur nette, mais que j'avais beaucoup d'endettement.
J'avais beaucoup d'endettement quand j'ai quitté la fonction publique. Parce que je n'avais pas de mise de départ. Moi, mes parents ne m'ont pas financé. Je ne suis pas quelqu'un qui a été aidé. J'ai été élevé. Mes parents m'ont donné ce qu'il y a de plus précieux, une éducation. Et donc, j'ai tout emprunté quand j'ai acheté un appartement à Paris. Et ben voilà, j'ai progressivement remboursé. Et j'ai utilisé l'argent que j'ai gagné à rembourser une partie de mes emprunts, d'une part, et à faire des travaux d'autre part.
Vous n'avez pas... Des travaux dans la maison que j'ai ? Bah, c'est la maison de Brigitte. Et l'argent venait notamment d'un prêt de 350 000 euros accordé par le Crédit Mutuel fin 2011. J'ai utilisé l'argent que j'ai gagné à rembourser une partie de mes emprunts ? Bah, l'argent venait notamment de l'appartement parisien revendu 980 000 euros en 2015. Ce soir-là, le mystère des millions disparus d'Emmanuel Macron restera donc irrésolu. Et le plus incroyable, c'est qu'à la fin de notre enquête, des témoins nous ont affirmé que ce n'était pas 3 millions d'euros qu'Emmanuel Macron aurait gagné chez Rothschild, mais vraisemblablement beaucoup plus. En cause, une énorme acquisition qu'il avait rendue possible juste avant l'élection de François Hollande. Le rachat de la branche nutrition infantile de l'américain Pfizer par le géant suisse de l'agroalimentaire Nestlé. Mi-avril 2012, juste avant de rejoindre François Hollande à l'Élysée, Emmanuel Macron va conclure in extremis l'un des plus gros deals de l'année chez Rothschild.
Le Suisse Nestlé a été le plus offrant dans l'enchère qui portait sur le rachat de la division lait infantile de l'américain Pfizer. Le Suisse a sorti son trésor de guerre pour faire échec au français Danone qui était également sur les rangs. 12 milliards de dollars, soit près de 10 milliards d'euros. Un prix justifié selon Nestlé par l'énorme potentiel de la division Pfizer Nutrition. Nestlé occupe déjà 25% du marché de la nutrition infantile dans le monde.
En réussissant ce deal, Emmanuel Macron aurait réussi un coup de maître. Décryptage de Mark Endevelde.
En quelques mots, comment se conclut le deal Nestlé-Pfizer ? Un, Nestlé, c'est pas un compte, un client historique de Rothschild. Nestlé n'avait pas non plus l'habitude de faire des acquisitions de ce type-là. À l'époque, il y avait un concurrent de Nestlé dans l'agroalimentaire qui était intéressé par l'activité de Pfizer, c'était Danone. Or, sur le deal, la banque d'affaires Lazard avait, elle, l'habitude de travailler avec Danone, et y compris Pfizer, en sachant que le patron de Lazard, le grand patron de Lazard, avait travaillé sur les activités de santé quand il était à New York. Donc en réalité, il y avait un avantage extrêmement important de la banque Lazard par rapport à la banque Rothschild. D'où la surprise de tout le monde sur le fait que c'est Rothschild qui a remporté le morceau. Il y a deux éléments où Emmanuel Macron aurait joué un rôle. Les deux éléments où Emmanuel Macron aurait joué un rôle, c'est un, c'est parce qu'il aurait réussi à séduire Peter Brabeck, donc grand patron de Nestlé en Suisse, particulièrement difficile d'accès, mais qu'il connaissait par, et dont il s'était rapproché grâce et par sa présence à la commission Attali. Mais dans le même temps, il y a également la proximité d'Emmanuel Macron avec l'avocat d'affaires, donc Jean-Michel Darroy. Pourquoi ? Parce que Jean-Michel Darroy, qui était lui-même à la commission Attali d'ailleurs, connaît très bien le directeur juridique de chez Nestlé. Et donc va présenter à Emmanuel Macron le directeur juridique de chez Nestlé.
Mi-avril 2012, Emmanuel Macron aurait lâché à un proche : j'ai le week-end pour convaincre Nestlé de remonter le prix. Si j'y arrive, je suis riche. Puis il fonce au siège de Nestlé, implanté à Vevey en Suisse, au bord du lac Léman. Au cours de notre enquête, une personnalité proche de la banque Rothschild a accepté de nous dévoiler, en off, les coulisses de ce deal historique. Condition que nous préservions son anonymat. Nous avons donc modifié sa voix, mais voici ses propos.
Là, il a fallu décourager Danone qui ne voulait pas aller jusqu'à 10 milliards de dollars.
C'est incroyable, il a réussi à convaincre Peter Brabeck comme ça en un week-end.
il les a convaincus le samedi de mettre les 60 millions qui manquaient, que Pfizer demandait, que Danone ne voulait pas mettre, et donc ça s'est fait comme ça.
En 2016, sur France 3, l'un des mentors d'Emmanuel Macron chez Rothschild évoquait les savoir-faire qu'il avait acquis dans la célèbre banque d'affaires.
En quoi son métier de banquier d'affaires peut aider Macron à être efficace en politique?
On y apprend l'art de la négociation. On apprend vraiment l'art de la négociation. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire, heureusement ou malheureusement, utile en politique, à communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. Dans le jargon, quand on fait une opération, on construit ce qu'on appelle une equity story, qui est l'histoire qui va donner aux actionnaires envie de voter cette opération, d'acheter les titres ou d'apporter leurs titres. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques de... pas de manipulation de l'opinion, mais de... un petit peu.
Manipulation de l'opinion ?
C'est que je ne me considère pas comme riche. J'ai d'ailleurs, comme tous mes collègues, fait à la fois
une déclaration de
patrimoine et d'intérêt. Ouais. Et vous avez pu constater que je n'étais pas à l'impôt sur la fortune et que je n'étais pas multimillionnaire.
Je n'ai pas dit qu'il fallait supprimer l'ISF. J'ai dit que la taxation du capital dans notre pays n'était pas optimale.
J'ai bien gagné ma vie quand j'ai travaillé dans le secteur privé. Très bien gagné ma vie. Non !
Chez Rothschild, Emmanuel Macron aurait donc très bien gagné sa vie et probablement atteint l'objectif qu'il s'était fixé, devenir riche. Mais au fait, quelle commission a-t-il perçue dans l'opération Pfizer-Nestlé, ce deal historique à 9 milliards d'euros? Cette question, beaucoup se la posent depuis des années dans les quartiers d'affaires parisiens. Mais seuls quelques initiés ont une chance d'approcher la vérité.
Il y a beaucoup de gens qui se trompent, en fait, pour essayer de calculer la commission directement, et en se disant que sur le montant d'un deal, il y a 9 milliards, et que donc il a touché 1%, etc. Mais non, c'est pas comme ça que les choses se passent. En fait, il y a une banque avant Macron qui s'appelle Rothschild, et c'est Rothschild qui est rémunéré. Nestlé va payer Rothschild et pas payer directement le banquier Macron.
Interrogée sur la rémunération qu'elle a perçue dans le deal Pfizer-Nestlé, la banque Rothschild nous a fait répondre « Les honoraires versés à l'entreprise pour une opération de conseil, quelle que soit sa nature, sont du ressort du client. Ils n'ont donc pas vocation à être rendus publics. » Mais selon l'organisation américaine Merger and Acquisition Source, les banques d'affaires perçoivent en moyenne entre 0,5 et 1,5% des deals supérieurs à 500 millions de dollars. Pour le deal Pfizer-Nestlé, Rothschild aurait donc perçu entre 45 et 135 millions d'euros. Prudent, notre fiscaliste parisien table sur une hypothèse basse.
J'ai envie de dire que sur un deal comme ça, à vue de nez, je pense que la banque a dû toucher pas loin de 0,5%. Je pense que c'est un deal à 9 milliards, la banque a touché, mettons 30 millions.
Sur ces 30 millions minimum, difficile d'établir combien Emmanuel Macron, artisan du deal, a pu toucher.
Quand au sein de la banque d'affaires Rothschild, un deal est conclu, c'est l'ensemble des associés qui touchent une part non négligeable du deal, y compris quand ils ne sont pas à l'origine du deal. Et donc, il y a une répartition, y compris opaque, au sein même de la banque. C'est-à-dire que les associés entre eux et surtout leurs collaborateurs ne sont pas forcément au courant de combien a gagné leurs collaborateurs ou leurs partenaires associés. D'accord. Mais sur le magot, entre guillemets, récupéré par la banque Rothschild, il y a une répartition qui s'est formée.
Dont
on ne connaît pas la répartition.
La réponse se trouverait-elle dans la déclaration d'intérêt transmise par Macron à la HATVP en 2014? Pour toute l'année 2012, il n'y déclarait que 720 000 euros de bénéfices industriels et commerciaux. Mais là encore, pour notre fiscaliste parisien, c'est peu crédible.
Ça voudrait dire que si on s'en tient à ça, en 2012, il aurait touché une commission de 700 000 sur la commission touchée par Rothschild. Faites le calcul. Si on dit 700 000 sur 30 millions, c'est peau de chagrin. C'est vraiment peau de chagrin.
Macron aurait-il été payé sur l'année suivante? Non. En 2013, il ne déclarait que son salaire de secrétaire général adjoint de l'Élysée. Selon notre source proche de la banque Rothschild, l'hypothèse que Macron n'ait pu gagner que quelques centaines de milliers d'euros sur le deal Pfizer-Nestlé n'a jamais convaincu les milieux d'affaires.
C'est une histoire pour endormir les petits-enfants le soir. Et personne de sérieux ne l'a cru, ce truc, c'est n'importe quoi.
Vous voulez dire personne de sérieux n'a cru les explications qu'il a données sur sa rémunération chez Rothschild?
C'est ça. Tout le monde savait que c'était du pipeau.
Pour notre avocat fiscaliste spécialisé en fusion-acquisition, le montant réel perçu par Emmanuel Macron lors du deal Pfizer-Nestlé est probablement beaucoup plus élevé.
Je dis ça avec beaucoup de prudence. Et ce sont des choses qui restent le plus souvent très confidentielles. Mais j'ai aussi l'habitude de ce genre de deal, enfin de ce genre de transaction. J'estime qu'une rémunération de l'ordre de 5 à 10 millions aurait été quelque chose de minimum. Je n'en sais rien. Je dis simplement que ça pose des questions et qu'il n'est pas tout à fait logique que personne et que la haute autorité n'en ait pas parlé.
Selon notre personnalité proche de la banque Rothschild, la modestie des revenus déclarés par Emmanuel Macron en 2012 s'expliquerait par le fait que chez Rothschild, tout n'est pas forcément versé en France.
Je vous parle complètement off là. Je connais bien le système des associés gérants chez Rothschild. Les associés gérants ont chacun une sorte de petite société, genre auto-entrepreneur. Bon, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt un trust mis à Jersey ou à Guernesey ou à l'île de Man, puisque Rothschild est à cheval entre Paris et Londres. On leur verse à peu près 20% de leur rémunération sous forme d'une paye classique, avec une feuille de paye comme vous l'avez, comme moi j'ai, et puis on leur verse les 80% qui restent dans le trust. Le trust, il est anonyme. Il y a un avocat, une boîte à lettres à Jersey ou à l'île de Man.
Un système d'optimisation fiscale qui aurait été rendu possible suite à des compromis acceptés par Bercy.
À un moment, à Bercy, il y avait tout un papier pour dire comment Lazare et Rothschild avaient été négociés un statut fiscal particulier. C'est Picasse qui s'en était chargé pour Lazare en tant qu'ex-membre du cabinet de Strauss-Kahn. Et il avait été négocié avec le service de la législation fiscale. Et Rothschild avait embrayé également, il avait obtenu ce système-là.
C'est quelque chose qui serait légal en fait de verser 80% des fils à l'étranger ?
Eh oui, voilà. Arguant du fait que Rothschild a deux sièges qui sont à Londres et Paris. Donc. En tout cas, ça a été approuvé à ce moment-là par le fisc français.
En 2005, le patron de la banque Lazare avait effectivement négocié avec Bercy un statut fiscal sur mesure pour ses associés gérants. Objectif ? Éviter les doubles impositions entre la France et les États-Unis. En 2007, Bercy confirmait dans un rescrit fiscal, une sorte de note à l'usage des contribuables repris dans un document de 2012, qu'il acceptait que certains honoraires des professions libérales basées entre Paris et Londres ne soient pas forcément fiscalisés en France.
La quote-part des revenus correspondant à l'activité du Limited Liability Partnership exercée au Royaume-Uni par l'intermédiaire d'une base fixe située dans cet État n'est pas imposable en France.
Pour en avoir le cœur net, nous contactons par mail le ministère des Finances.
Bonjour, nous réalisons un épisode sur la carrière du président. Les opérations de fusion-acquisition étant des activités transnationales, ces accords permettent qu'une partie de la rémunération des associés gérants soit fiscalisée à l'étranger, afin notamment d'éviter les doubles impositions dans les pays concernés. Pouvez-vous nous confirmer les dates où ces accords ont été passés ?
Dans la foulée, Bercy ne démentait pas, bien au contraire.
Bonjour, les rescrits fiscaux nominatifs particuliers aux entreprises ne sont pas publics et sont couverts par le secret fiscal. C'est à l'entreprise concernée de communiquer sur ces informations. Eh bien, on n'est pas rendu.
Pour Mark Endevelde, ces arrangements fiscaux confidentiels arrachés de haute lutte par les banques d'affaires s'expliqueraient par leur proximité historique avec le sommet de l'État.
La banque Rothschild, elle fonctionne toujours sur des va-et-vient entre une partie, en tout cas, de son recrutement, c'est de passer de la haute administration d'État à des postes de gouvernance dans le capitalisme français, parce que la principale fonction de la banque Rothschild, c'est d'assurer ce qu'on appelle l'activité de fusion-acquisition, ce n'est pas qu'une banque qui s'intéresse au milieu économique, c'est une banque qui, bien évidemment, s'intéresse au pouvoir. Pourquoi ? Parce que, justement, comme le capitalisme français est basé sur cette interconnexion avec l'État, la banque d'affaires Rothschild, comme les autres sur la place de Paris, a intérêt d'avoir de très bonnes relations avec l'État, d'avoir des informations sur les choix stratégiques de l'État, sur les va-et-vient entre les responsables publics et privés dans ces secteurs-là. C'est comme ça aussi, c'est par cette proximité-là que la banque Rothschild peut avoir de l'influence sur les décisions publiques, y compris de vente de grandes entreprises, de désengagement de l'État sur des opérations de privatisation. Et donc, ça, c'est une, on va dire, une technique éprouvée depuis longtemps. Il faut se souvenir que Georges Pompidou, ancien président de la République, était lui-même issu de Rothschild & Co. Dans une moindre mesure, Henri Emmanuelli, responsable socialiste, ô combien socialiste, Henri Emmanuelli a eu aussi un parcours de banquier chez Rothschild. Il y a eu, chez Rothschild & Co., une autre figure de la haute technocratie sous la Mitterrandi, c'est l'ancien directeur de cabinet de Pierre Bérégovoy, c'est Jean-Charles Naori, qui est devenu, suite à son passage comme directeur de cabinet de Bérégovoy, banquier d'affaires chez Rothschild, avant de devenir grand patron, et aujourd'hui toujours grand patron, du groupe Casino, le groupe de distribution. Et puis, il y a Nicolas Bazire, ancien directeur de cabinet de Édouard Balladur, ensuite qui est passé par la banque Rothschild. Il y a également l'ancien secrétaire général adjoint de Nicolas Sarkozy, François Pérol, donc secrétaire général adjoint. D'ailleurs, pour l'anecdote, Emmanuel Macron, quand il arrive à l'Élysée comme secrétaire général adjoint de François Hollande, il reprend le bureau historique de François Pérol, ancien secrétaire général adjoint de Nicolas Sarkozy, et tous les deux sont en réalité issus de la même filière Rothschild.
Après avoir fait fortune dans la prestigieuse banque franco-britannique, Emmanuel Macron aurait-il omis de mentionner certains honoraires perçus à l'étranger ? C'est ce que nous a affirmé notre personnalité proche de la banque Rothschild.
Ce qui fait que quand il fait sa déclaration, il a pu dire qu'il avait peu d'argent, qu'il avait gagné 2 ou 3 millions chez Rothschild, mais il ne fait apparaître que ce qu'il a reçu en France. Il n'a pas fait apparaître qu'il avait reçu dans un trust. Et ce n'est pas illégal, hein, dans la mesure où, comme c'est dans le trust, ce n'est pas à lui. Quand il veut que ça redevienne à lui, il suffit qu'il claque les doigts. Et à ce moment-là, le système fait que l'avocat, payé par Rothschild, libère les fonds et les verse sur un compte au Panama, ou sur un compte en France, sur un compte en Belgique, enfin là où il est, là où il le demande. Bon, actuellement, il y a un trust quelque part. C'est évidemment pas dans les Macronics que vous trouverez. Et donc, il n'a pas menti dans sa déclaration de patrimoine, mais il n'a pas dit la vérité vraie.
Président de la République, nous vous prions...
Après plusieurs mails au service de presse de l'Élysée restés sans réponse, nous appelons la présidence de la République.
Allô ?
Oui, la poste est occupée.
Ah, le poste du service de presse ? D'accord. Parce qu'en fait, on essaie d'avoir des réponses de leur part depuis septembre 2021. On n'a jamais eu de réponse à nos questions.
Oui, mais là, vous êtes au standard.
D'accord.
On ne prend pas de message, hein, au standard.
Parce que là, en fait, dans une enquête sur le patrimoine du président, on nous dit qu'en 2012, oui, il y aurait eu des honoraires versés dans un trust à l'étranger.
Monsieur,
vous voyez, donc c'est important.
Monsieur, vous dites ça, vous êtes au standard. On ne prend pas de message.
En 7 mois et 8 épisodes de notre série « Emmanuel, un homme d'affaires à l'Élysée », la présidence de la République n'a jamais répondu à une seule de nos questions. Début 2022, quand Emmanuel Macron a déclaré un nouveau patrimoine de 500 000 euros, un hashtag est apparu sur Twitter. Et manifestement, beaucoup d'internautes entretiennent vis-à-vis des déclarations du président de la République une certaine distance critique. Interrogé sur le montant perçu par Emmanuel Macron dans le deal Pfizer-Nestlé et sur son éventuel versement dans un trust, la banque Rothschild n'a pas souhaité nous répondre. Confronté à la même question, l'Élysée a également choisi de ne pas nous répondre. Le mystère des commissions perçues par Emmanuel Macron dans le deal Pfizer-Nestlé reste donc pour l'instant enfoui dans l'opacité du système Rothschild et de ses accointances au plus haut sommet de l'État. Merci d'avoir visionné cette enquête citoyenne. Aujourd'hui, toutes les chaînes de télé se méfient des investigations politiques ou économiques. Dans les groupes privés, on les a tués depuis longtemps au profit de l'info continue ou des sujets de société. Dans l'audiovisuel public, dès qu'un sujet est jugé un peu trop politique ou un peu trop sensible, il a tendance à être écarté par crainte des foudres du pouvoir exécutif. Alors pour financer les enquêtes que les chaînes refusent de lancer, faites un don ponctuel ou récurrent sur off-investigation.fr ou alors abonnez-vous, ce qui vous donnera accès à des contenus exclusifs comme par exemple les making-of de nos enquêtes. Merci d'avance pour votre soutien, financez l'investigation indépendante.
Il n'y a pas moyen de parler à un attaché de presse de l'Elysée ou au chef du service de presse, non ?
Là, non.
D'accord. Sinon, j'avais pensé à une autre idée. Parce qu'en fait, il y a quelques mois, le président avait eu le temps de répondre aux questions des youtubeurs McFly et Carlito. Est-ce que vous pensez que si on faisait transiter nos questions par McFly et Carlito, vous pensez qu'il y aurait une chance que Emmanuel Macron nous réponde ou...
Je n'en ai aucune idée.